fidèle au poste. Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour l'ultime émission de la semaine. Fidèle au poste, c'est 30 minutes de musique bizarre, de portraits, de films, de bandes dessinées, de séries, bref, de pop culture dans tous ses états, avec aujourd'hui un petit focus sur Charles Aznavour, et en second temps d'émission, nous retrouverons Johann Sfar et sa dernière BD, Que faire des Juifs ? Allez, comme tous les jours, on est fidèle au poste à partir de 14h, et vous êtes vraiment formidable.
You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my day. Désirable, je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, adorable. Tu n'as pas compris, tant pis. T'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille.
Formidable Charles Aznavour. Charles Aznavour, à qui l'on va consacrer la partie de notre émission.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Rappelons que ce grand chanteur a été aussi un grand acteur, intervenant dans une cinquantaine de films. De par son parcours familial de réfugié arménien, sa complicité avec les Juifs depuis son enfance, ses parents ayant caché des Juifs pendant la guerre, son amour d'Israël, il a régulièrement endossé des rôles de Juifs à l'écran, alors qu'il ne l'était pas. Dans « Qu'est-ce qui fait courir David » d'Eli Chouraki, il interprète Léon, le père de David. David, c'est un garçon de 30 ans qui travaille sur le script de son nouveau film où il évoque ses racines juives, son enfance, son adolescence et la relation qu'il a avec ses parents. Dans la comédie Yiddish Connection de Paul Boujna, Charles Aznavour co-signe le scénario. Il y interprète Aaron Rapoport aux côtés d'André Dussolier, Vincent Lindon et Ugo Tognazzi. Un film autour de la recherche d'argent dans des conditions loufoques. En 89, Moshe Mizrahi se lance dans l'adaptation de Manche Clou, le roman éponyme d'Albert Cohen. Charles Aznavour y interprète Jérémy aux côtés de Pierre Richard, Bernard Blier, Jean Carmé, Jacques Dufilho et Jacques Villeray. C'est là l'histoire des Valeureux, le clan des Juifs modestes et hauts en couleur, vivant à Céphalonique dans les années 30. Ils partent rencontrer leur neveu et ami Solal dans ces luxueux bureaux de la Société des Nations.
Messieurs, la nouvelle est bonne.
Je demande la parole. L'honorable Saltiel vient de nous dire que la nouvelle est bonne. bonne, messieurs, signifie, à mon avis, comportant de l'argent, de la monnaie, des sous en billets de banque divers. Ici est donc de fêter la nouvelle. 5 litres de vin résiné, une demi-douzaine de poutarques bien épaisses, de l'huile d'olive et 3 miches de pain spongieuses et avaleuses d'huile. Et que ta mère soit bénite.
Son premier grand rôle sera en 1961 dans Un taxi pour Tobrouk, où Aznavour incarne Samuel Goldman, un interne des hôpitaux qui a dû quitter la France occupée du fait de ses origines juives.
À mon avis, dans la guerre, ce qu'il y a de plus chouette, c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qu'il y a avant. Tiens, on devrait pouvoir toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite.
Enfin, c'est dans Le Tambour, le film de Volker Schöndorff, Palme d'or du Festival de Cannes de 1979, qu'Aznavour interprète Sigismund Marcus, un vieux marchand de jouets qui prend en charge le petit Oscar parce qu'il est secrètement amoureux de sa mère. Confronté à la montée du nazisme, il se donnera la mort pour échapper aux persécutions nazies.
Trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, ah, faut se méfier, y'a du bluff dans l'air. Je suis blinde, à toi de parler, dit au second le premier. Et ce dernier s'écrit parole. Le troisième mis 100 francs, je dis tes 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as? Trois dames, j'ai gagné, je crois, non, dit-il, car j'ai trois rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis qu'es-tu venu faire dans cette galère? On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. Je me dis maintenant va falloir se refaire. Pendant toute la partie, je me faisais des reproches. Quand se termine à la nuit, je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte, je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes et les piétine avec colère. Mais au moment de m'en aller, j'entends des coups de sifflet, une descente de police. Les inspecteurs du quartier veulent tous nous interroger. Me voici devant la justice. Ils me disent, mon garçon, nous sommes bons et te donnons une minute pour t'expliquer. Je leur ai dit, affolé, on prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je n'ai jamais rien eu de meilleur qu'une paire. On prend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. Je vois très bien, me dit le commissaire. On va vous emprisonner car du reste moi je m'en fiche. Mais on va vous affecter au département des fiches. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on range les cartes. En prison je suis devenu fonctionnaire. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker.
Fidèle au poste, à Vienne Ataf, Radio Judaïka.
Premier artiste français à être monté sur les planches de Tel Aviv en 1949, peu après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, Charles Aznavour était incontestablement un ami de ce pays. Tout au long de sa carrière, l'homme aux 1200 chansons reviendra régulièrement pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, francophones ou autres. A commencer par l'ancien président de l'État et son épouse, Reuven Rivlin, qui n'a pas dissimulé son bonheur de recevoir Charles Aznavour pour lui remettre une médaille de la Fondation Raoul Wallenberg. En effet, Charles Aznavour et sa famille ont caché de nombreux juifs arméniens dans leur modeste appartement parisien pendant les jours très sombres de la Seconde Guerre mondiale dans la France occupée par les nazis. Cet Arménien d'origine a toujours gardé un contact très étroit avec le peuple juif. Au cinéma, il a joué des personnages juifs dans plusieurs films, Qu'est-ce qui fait courir David, Yiddish Connection ou Mange-Clou. Et sur scène, il a interprété, entre autres titres, Yerushalayim, Yiddish Mama ou encore Sarah. Si l'artiste s'est produit à chaque fois en Israël à guichet fermé, c'est, outre son talent, que ses chansons ont été popularisées en hébreu par des artistes tels que Mati Kaspi ou Noah. Nous avons tant de choses en commun, les Juifs et les Arméniens, disait-il, dans le malheur, dans le bonheur, dans le travail, dans la musique, dans les arts. J'ai un peu l'impression que je viens dans un coin de ma famille à moi, parce que nous avons la même manière aussi de vivre, de manger et de boire.
הזיכרון אשר אקח עד סוף הדרך עד יומי האחרון היא השיר החם שלא נגמר היא שיר תקווה ושיר משמר אותו בטוב וגם במר אני אשיר במלוא גרון גלי הים והיא החוף הרוח שכבר לא תחלוף אותי היא תאסוף אליה ליבה היא אולי מראה של חלומות וחיוכה מפיל חומות היא מצילה מתאומות אני נשבע היא שכל הזמן נראית כל כך שמחה שמבטיחה את בו ההצלחה איש לא רואה אותה כשהיא בוכה היא בתוך תוכי והיא תמיד איתי ולי היא הדבר האמיתי וכל מילה שלה נושאת ברכה היא נותנת לי סיבה לחיות לא עוד להיות או לא להיות כשהיא רואה את הדמעות שבעיניי היא בכל צחוקה ובדמעה בכל שנייה בכל שעה מכאן ועד יבוא יומי כל משמעות חיי זאת היא שכל הזמן נראית כל כך שמחה שמבטיחה את בו ההצלחה איש לא רואה אותה כשהיא בוכה היא בתוך תוכי והיא תמיד איתי ולי הדבר האמיתי וכל מילה שלה נושאת ברכה היא נותנת לי סיבה לחיות לא עוד להיות או לא להיות כשהיא רואה את הדמעות שבעיניי היא בכל צחוקה ובדמעה בכל שנייה, בכל שעה, מכאן ועד יבוא יומי, כל משמעות חיי זאת בכל שנייה, בכל שעה מכאן ועד יבוא יומי כל משמעות חיי זאת היא
Un jour, un podcast.
Dans Un jour, un podcast, nous dénichons pour vous quelques petites pépites. Aujourd'hui, un podcast produit par Actua BD, un site spécialisé en bande dessinée et dirigé par Didier Passamonique. Il a, il y a quelques jours, interviewé Johann Swahr sur son album « Que faire des Juifs ?». Je vous propose d'en écouter un extrait.
Ce livre, c'est pas du tout la suite de « Nous vivrons », même si le dispositif ressemble un peu. « Nous vivrons », c'était un travail de recension d'un moment particulier où, selon moi, les Juifs du monde entier se sont trouvés terrifiés par ce qui s'était passé le 7 octobre, mais également, ils ont découvert une absence d'empathie ou une absence de savoir à leur sujet de la part de leurs contemporains. Et le livre était extrêmement angoissant au début, puisque j'ai voulu occuper les silences et faire parler, j'allais dire, tous les Juifs que je connaissais en France. Et ensuite, je suis parti en Israël, et dès que je suis arrivé en Israël, j'ai été apaisé, non pas parce que ça allait mieux là-bas, mais parce qu'Israël, c'est pas mon pays. Donc je peux être là-bas, observateur, bizarrement plus paisible. En France, je me sens responsable quand ça va pas. Ça fait 30 ans que je me bagarre pour le vivre ensemble, les relations judéo-arabes, les machins et tout. Quand ça marche pas, il y a une part mégalo de moi qui me dit que c'est de ma faute. Bon, nous vivrons, c'était recueillir du matériau pour les journalistes et les historiens qui peut-être voudront s'intéresser à cette époque. Et je crois que le dessin offre une dynamique exceptionnelle parce que tu te mets face à un interlocuteur, tu lui poses aucune question et la personne parle toute seule. Et tu fais à la fois, tu notes ce qu'on te raconte, mais il y a également un portrait empathique, un portrait presque charnel. Tu dis beaucoup de choses avec un dessin. Bon, à la suite de ça, je me suis dit, les Juifs, ça suffit. Moi, j'adore faire le chat du rabbin une fois par an, j'adore parler de ma judaïté dans mes carnets autobiographiques, mais le judaïsme contemporain comme sujet, après Nous vivrons, je pensais que ça allait. Et je me suis aperçu que tout ce qu'on m'a mis dans la tête depuis que j'étais enfant, de la part de mon père, qui était un vrai militant, qui était un historien du judaïsme, qui était très impliqué, et mon grand-père maternel, à l'inverse, qui était un anarchiste très nihiliste, tout ce qu'ils m'ont mis dans la tête dans l'enfance, ça se mettait à ressortir. Et je me suis dit, en fait, c'est parti d'une bonne nouvelle. C'est parti du fait que, après Nous vivrons, j'ai fait un tour de France des librairies qui s'est incroyablement bien passé. C'est-à-dire que là où les réseaux sociaux et la télévision te dépeignent un monde où on est tous prêts à s'écharper, en librairie, j'ai rencontré que des gens qui avaient envie de parler, y compris des militants pro-palestiniens, y compris des gens qui arrivaient avec des keffiers, des machins, etc. Je crois qu'avant tout, ils ont envie de s'exprimer. Et ensuite, quand on commence à parler et qu'on dépasse 5 minutes de discussion, on découvre qu'on pense tous à peu près la même chose, qu'on a envie que la guerre s'arrête, qu'on n'est pas fan de Netanyahou, qu'on n'adore pas le Hamas, et qu'on voudrait que personne n'extermine personne. Et je me suis dit, mais après tout, la grande différence qu'on a, c'est qu'il y a des choses qu'eux, on ne leur a pas expliquées. Sur l'histoire des Juifs, sur l'histoire de l'antisémitisme, sur beaucoup... Les personnes à qui s'adresse Que faire des Juifs, ce sont tous ces gens qui, de très bonne foi, disent... Mais moi, j'ose pas parler du Proche-Orient ou des Juifs parce que j'ai peur qu'on me traite d'antisémite. Parce que la plupart des gens se disent, mais dès qu'on va critiquer Israël, on va nous traiter d'antisémite. Mais c'est absolument pas le cas. Critiquer Israël, c'est le sport préféré des Juifs. Le problème, c'est qu'en le faisant, les gens font état des clichés qu'ils ont sur le sujet et se mettent à dire, sans le faire exprès, des conneries pas possibles. Et j'ai constaté une chose, c'est que si un noir te dit que tu es raciste, tu l'écoutes. Si un homosexuel te dit que tu as été homophobe, tu l'écoutes. Si un juif te dit que tu as dit un truc anti-juif, tu dis « Ah non, là, c'est un complot, machin, tout ». Non, parfois tu peux avoir dit un truc anti-juif. Et pas méchamment, pas parce que tu as dit « Je déteste les juifs », mais parce que tu te mets à dire « Bah oui, mais c'est vrai qu'ils ont un pouvoir extraordinaire, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela ». Et donc j'ai essayé de raconter tout ce que je savais de l'histoire des Juifs, en faisant parler des écrivains, des personnages qui me fascinent, mon père, mon grand-père, Joseph Kessel, mais aussi des gens d'aujourd'hui, en me demandant si tout ça était cohérent, et en me demandant si on pouvait, grâce à l'empathie du dessin, sortir des symboles. Et moi, mon rêve, c'est qu'en sortant de ce livre, plus personne soit capable de se dire « un Juif, c'est ça ». Je crois que le livre est beaucoup plus romanesque et romantique, et beaucoup moins philosophique qu'il en a l'air. C'est-à-dire que la partition de l'ouvrage, elle est très simple. C'est moi, enfant, qui me retrouve avec sur les épaules la mission paternelle d'être l'avocat des Juifs, d'une certaine façon, et de lutter contre l'antisémitisme. Et s'ouvre là une histoire des Juifs et une histoire de l'antisémitisme. Et le livre se termine, comme ça les gens n'ont pas besoin de l'acheter, je résume, le livre se termine par une très bonne nouvelle, comme disait Pratt, le désir d'être inutile, c'est que de toute façon, tu n'arrêteras pas l'antisémitisme. Ça existe, c'est constitutif de nos sociétés, donc on peut se détendre, mais en période de crise, ça revient. Ensuite, là où je minore le contenu philosophique, c'est que je fais parler mes interlocuteurs pour attraper leurs pensées, mais je ne le garde que si ça a un impact sur leur vie. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont une pensée sur le judaïsme, mais leur vie a été bouleversée par leur identité juive, dans des modalités très différentes. Tu as par exemple la journaliste Eve Seftel au sein de Libération qui vit un cauchemar parce qu'elle doit subir les réflexions à la con de ses collègues. À l'inverse, tu as l'avocat Ariel Halimi, qui est un avocat juif d'extrême gauche, qui s'est mis à défendre des gamins qui avaient dit des insultes anti-juives, et toute la communauté juive lui est tombée dessus. Donc quand on dit « sa vie a été bouleversée par son identité juive », ça peut être aussi la faute de la communauté juive. Et je fais exprès d'avoir des parallèles entre les personnages, par exemple, mais qui sont vrais, mais que j'utilise. Par exemple, ce jeune soldat de la brigade Golani qui a 20 ans, qui sort d'une guerre abominable à Gaza, enfin, qui la raconte, moi je suis par terre quand il me raconte, je me suis même demandé si j'allais garder le témoignage ou pas, tellement il est glaçant. Et je lui dis « mais comment tu t'es retrouvé là-bas ?» Et il me dit, bah, j'étais en France, je m'occupais du service de protection de la communauté juive, et il y avait tellement d'agressions anti-juives que moi j'allais au carton à chaque fois, et si je restais en France, ça n'allait pas aller, donc je suis parti en Israël. Je peux pas ne pas faire le parallèle avec le fait que moi j'ai passé 7 ans de ma vie dans les services de protection de la communauté juive à Nice, et que j'ai fait le choix d'arrêter de devenir dessinateur. Donc il y a 1000 parallèles comme ça entre les personnages. Que faire des juifs, c'est que faire de son juif intérieur. Moi j'ai toujours eu une grande joie à traiter de judaïsme, parce que c'est mon sujet, et ça me plaît d'en parler, parce que chez moi c'est pas réglé, parce que j'ai eu une famille très conflictuelle, parce que j'étais en révolte contre mon père pendant toute mon enfance, donc c'est mon sujet. Quand ça devient mon identité, c'est plus compliqué, parce que moi j'ai toujours défendu les identités multiples, j'aime bien qu'on soit juif 5 minutes par jour et c'est tout. Le fait est que depuis le 7 octobre, on nous sollicite énormément à ce sujet, et j'use et j'abuse d'une liberté que n'ont pas Delphine Horviller ou Chaim Corsia, c'est que moi je ne représente personne. Et je suis très proche de Delphine Horviller, je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a charge d'âme, elle représente la communauté juive, Chaim Corsia aussi. Donc ils ne peuvent pas, quand ils sont en colère, ils ne peuvent pas le dire, quand ils sont révoltés, ils ne peuvent pas le dire, ils sont obligés de... Bon, moi j'ai le droit d'être irresponsable et je ne m'en prive pas. Après, je ne suis pas du tout dupe de ce qui se passe avec les médias. Je sais très bien qu'on ne m'invite pas pour mes livres, on m'invite parce que je vais dire quelque chose qui va... Mais tant mieux, parce que j'ai un truc à dire. En revanche, quand des collègues sont scandalisés qu'on m'invite moi et pas eux, ils peuvent se rassurer, je sais très bien pourquoi on m'invite. Mais il me semble que là où je suis intègre, c'est que le contenu de mes livres est tout à fait cohérent avec ce que je dis. Après, le revers de la médaille, c'est que beaucoup de gens me font des reproches sur Internet, etc., qui n'ont jamais ouvert mes livres. Beaucoup de gens, par exemple, m'écrivent en disant « Mais c'est scandaleux, vous critiquez jamais Netanyahou. » Mais je dis « Mais c'est pas possible, ils ont pas ouvert Nous vivrons, parce que c'est une charge contre Netanyahou du début à la fin. Bon. » Et donc ça, c'est le revers de la médaille. Ce sont les gens qui ont le sentiment de me connaître parce qu'ils m'ont entendu à la télévision ou derrière un micro parce que je suis un gros bavard. Et ils se sont peut-être pas rendu compte que dans mes livres, les choses sont beaucoup moins univoques. Si je fais 560 pages, c'est pour me bagarrer contre moi-même, pour me bagarrer contre mon père, pour... si c'était réglé le judaïsme, j'en parlerais pas en permanence. Je suis pas qu'amour pour ma tradition, je suis dans le conflit, sinon ça m'intéresserait pas. Je change de méthode à chaque fois, mais comme le résultat est le même, les gens s'en rendent pas compte. Mais tout de même, pour ma défense, je crois avoir publié 350 bandes dessinées, parmi lesquelles plus de 200 albums de 46 pages couleur. Donc c'est une discipline que je maîtrise beaucoup. Quand on se voit avec Lewis Trondheim chaque été, on écrit 5 ou 6 albums de Donjon qui sont du 46 pages couleur avec un début, un milieu, une fin. Quand j'écris un Blueberry, donc c'est pas seulement que je sais le faire, c'est que ça me constitue. Ensuite, grâce à l'association, a commencé il y a 20 ans cette discipline du carnet, qui est exactement ce que tu dis, qui est une logorée, c'est-à-dire au jour le jour, j'écris et je dessine ce qui m'arrive. Bon, sauf que Nous vivrons et que faire des juifs, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Nous vivrons et que faire des juifs, ce sont des pages réécrites, remontées, recoupées, qui ont fait l'objet de relectures par des historiens et par des journalistes. C'est dessiné beaucoup plus grand que les carnets, donc ça en a l'aspect, mais c'est pas fait pareil. C'est fait comme... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est que j'ai essayé de prendre au sérieux cette notion de roman graphique, puisque quand je publie des romans, il se passe exactement la même chose. J'écris toujours à la main, je fais un texte, et mon éditrice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit « là, je m'emmerde, là, j'ai pas compris, là, c'est trop long, donc on coupe, on recolle, etc. » Quand j'ai fait des films, il s'est passé la même chose, tu écris, puis bon. Donc, j'allais dire « Nous vivrons et que faire des juifs, c'est pas comme mes carnets », sauf que maintenant, mes carnets, ça devient comme ça aussi. C'est-à-dire que depuis que mes carnets sont chez Gallimard, je vais dire un truc provoquant, j'ai un vrai éditeur. C'est-à-dire que c'est beaucoup relu par Nicolas Leroy et par Thierry Laroche, et ils me font pareil. Ça nous emmerde, ça tu l'enlèves, là il n'y a pas de dessin. Donc en réalité, cet aspect flux continu qu'il y avait dans les premiers carnets, aujourd'hui n'est plus là. Après, il est possible qu'à la lecture, on ait le sentiment que ce soit toujours la même chose. Mais tout de même, je m'efforce d'avancer avec ce public dont les goûts changent et qui est aujourd'hui disposé à acheter un ouvrage de 560 pages en quadrichromie à la main. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est encore le même langage que les bandes dessinées avec lesquelles on a grandi ? J'en suis pas certain. Quand je fais... Reparlons de méthode parce que ça m'intéresse. Quand je fais Le Chat du Rabbin, d'abord j'écris le scénario. Ensuite, je crayonne tout le scénario avec les lettrages. Je fais lire à mon éditeur. Il me propose des petits changements en général, surtout sur la fin. Et ensuite, je vais tout ancrer. Et ensuite, ça va être tout colorié. Donc on est dans quelque chose qui reste très artisanal, où il y a plusieurs phases, etc. Dans Nous vivrons et dans Que faire des Juifs, il y a des pages qui sont exactement comme tu les verras dans le livre, sauf qu'il y en a deux fois plus que ce qui sera publié, elles ne sont pas dans le même ordre.
Un podcast produit par actuabd.com, une interview menée par Didier Passamonique. Je vous invite vraiment, si vous vous intéressez à la BD, d'aller visiter ce site qui regorge de petits trésors.
Ah, vous avez déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Fin de notre émission et pour nous de la semaine, puisque demain vendredi, les programmes seront pré-shabbatiques. Je vous retrouve donc après un long week-end lundi, vous souhaite un excellent Shabbat et vous donne rendez-vous pour une nouvelle semaine de Fidèles au Poste, lundi à 14h.